de La Haye, qui nous vient de l'Université Lyon 2 et qui tout récemment a brillamment soutenu une HDR, n'est-ce pas, avec... Non, j'ai entendu brillamment, mais je n'en doute pas, et qui donc va nous transporter un peu plus vers le nord, vers la colonie de la baie, et en particulier avec l'auteur de la célèbre formule
sur le... Nous allons en parler plus calmement,
n'est-ce pas, donc on va être en plein dedans.
On va commencer par ça.
Donc, John Winthrop ou la force politique de la, vocation religieuse.
Merci, voilà. Gérard Hugues. Merci beaucoup pour cette invitation, Laurent et Anne. C'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir parler religion, alors que dans mon travail, parce que je travaille sur cette figure du gouverneur Winthrop qu'on pense premièrement et essentiellement comme un puritain, j'ai dû faire des détours pour en réalité prendre en compte les avancées de la religion vécue sur le sujet des études puritaines de Nouvelle-Angleterre depuis 15 ans, repenser un petit peu la mission puritaine et le rôle du personnage Winthrop dans cette historiographie. Alors vous le connaissez tous, il a été premier gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts. Vous avez sans doute rencontré dans vos lectures et vos préparations de cours son Model of Christian Charity, ourtexte de la littérature de Nouvelle-Angleterre, vraiment littéralement, d'où est extraite la vision puritaine de la ville sur la montagne, la fameuse citation ici, « We shall be a city upon a hill, the eyes of all people are upon us ». Plus rares sont ceux parmi vous qui auraient lu son journal, qui est une source majeure de l'histoire de la région, mais qu'on ne fréquente malheureusement que très peu. L'historiographie états-unienne a en effet fait de John Winthrop le père de la Nouvelle-Angleterre exclusivement puritaine, chez les Mothers au XVIIe siècle, chez Tocqueville ou encore George Bancroft au XIXe, et enfin chez Perry Miller au XXe siècle, qui est le fondateur incontesté des études puritaines américaines. Plus récemment, Francis Brammer a repris cette longue tradition historiographique qui consiste à inscrire les origines culturelles américaines dans la fondation de la Nouvelle-Angleterre puritaine en sous-titrant sa biographie du gouverneur, le père fondateur oublié des États-Unis. Oui, je pense qu'on pourrait ouvrir un petit peu, il fait très très chaud, non? Vous ne trouvez pas que... Non, je crois que...
Pas l'arrêter, pas...
Donc, je voudrais interroger avec vous les enjeux méthodologiques de cette tradition historiographique et religieuse et tenter de délimiter les contours d'une définition opérationnelle du religieux dans le contexte colonial de l'expansion anglaise en Amérique. Qu'entend-on par religion dans le contexte de l'entreprise de colonisation et comment lire les textes de Winthrop dans ce contexte? Nous verrons que le puritanisme demeure un angle d'approche pertinent dans l'analyse de la formation des colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre, mais sous l'angle politique de la vocation religieuse, dans le contexte spécifique du peuplement, settlement en anglais, hein, le peuplement, comme une forme d'occupation coloniale spécifique. Je commencerai par contextualiser l'idée de mission religieuse en Amérique dans l'exceptionnalisme anglais de l'époque moderne. Pour abolir les frontières de l'histoire qui isolent Winthrop et sa Nouvelle-Angleterre dans un lieu fermé, clos sur lui-même et qu'on n'étudierait que selon les règles que ses pasteurs auraient établies et formulées. Ensuite, je proposerai l'idée que l'expansion primée sur l'évangélisation et la pureté confessionnelle et cultuelle des settlers de Nouvelle-Angleterre, et que la corporation qu'ils formaient dépasse largement la communauté religieuse des études puritaines. Il faut donc penser la religion un petit peu autrement. Je reviendrai en dernier point sur ce que le puritanisme de Winthrop et de ses pairs au conseil de la Compagnie de la Baie nous enseigne sur l'expérience de colonisation, qui est le sujet et l'objet de leurs écrits politiques. Il faut bien comprendre qu'on peut étudier la Nouvelle-Angleterre par le texte religieux, mais on peut aussi aller chercher des textes politiques qui recoupent d'autres genres de la littérature anglaise de l'époque moderne, comme la promotion coloniale, par exemple. On peut ainsi tracer dans l'évolution de la vocation du gouverneur l'émergence d'une conscience historique de la liberté, à la fois profondément individuelle et privée et éminemment publique et collective, qui est propre au settlement. Voilà mon argument. Alors, premier point, la mission religieuse et l'historiographie puritaine. Alors, brièvement, parce que la centralité de la figure de John Winthrop dans l'historiographie puritaine américaine s'explique tout simplement par l'abondance de sources et d'écrits de sa main qui ont survécu, une quantité colossale de lettres, d'extraits de journaux, plus un journal publié, qui fait quand même 655 pages dans son édition moderne. Une quantité colossale donc de sources qui non seulement existent, mais qui ont été citées, modifiées, publiées, éditées et commentées presque depuis sa mort en 1649. Donc tous les historiens de l'Amérique et du puritanisme les ont mobilisés ou les ont rencontrés au fil de leurs recherches ou de leurs enseignements. Il n'existe qu'une petite poignée de spécialistes de la pensée politique de John Winthrop alors qu'il était gouverneur. Mais sa figure dépasse largement ses écrits. En effet, il est au centre de l'idée d'une mission puritaine en Amérique, aux côtés de Bradford, qui fonda Plymouth, de John Cotton, qui officiait à Boston, Thomas Hooker et Thomas Shepard, et Roger Williams également. Ces pasteurs ont fait l'objet d'études nombreuses, dans lesquelles on mobilise bien souvent Winthrop comme leur antithèse. Il est l'emblème d'une orthodoxie obscure, fanatique, intolérante, contre laquelle luttent non seulement les pasteurs les plus radicaux, mais aussi les congrégations elles-mêmes, et la hiérarchie des églises, je reprends cette formulation, Winthrop, c'est l'emblème d'une orthodoxie à laquelle on fait achoper l'individualisme, l'élan, l'innovation religieuse. Souvent, on met en exergue la pensée d'un pasteur ou d'une congrégation par opposition à la rigidité du gouvernement qui, soi-disant, s'oppose à eux. Les études religieuses récentes, en particulier la religion, l'histoire sociale de la religion, ont mis en évidence peut-être que cette orthodoxie, tant vantée par Miller, qui en avait fait un idéal, n'a jamais existé. Le champ s'est redéfini complètement, non pas par la communauté, mais par le conflit, l'opposition, la fragmentation. Comme un retour de balancier qui a fait basculer la communauté idéale et parfaite de Miller dans un ensemble de communautés plurielles et en perpétuelle confrontation. Mais Winthrop, cependant, continue à être cité, à être étudié. Sa pensée politique ainsi se résume à une vision symbolique forte, à la ville sur la montagne, du Model of Christian Charity, dont Daniel Rogers vient de faire la généalogie. Son ouvrage à Princeton University Press est la généalogie du texte et de son interprétation à travers l'historiographie américaine. Et il présente en réalité un Winthrop à deux têtes. D'un côté, l'auteur inspiré d'une vision symbolique forte de la communauté coloniale, la ville sur la montagne, un idéal qui est en réalité déclinable et décliné à travers une grande variété de représentations de l'en commun de l'Amérique. Ronald Reagan a sur sa pierre tombale une citation de Winthrop. C'est pour signifier l'en commun. Il incarne cette communauté religieuse de manière extrêmement symbolique et émotionnelle, etc. Donc, d'une part, cet auteur, mais d'autre part, le défenseur d'une orthodoxie fragile, contestée, au service d'un idéal primitif, est presque immédiatement dépassé. On emmène avec nous des passeurs qui immédiatement vont vouloir aller plus loin que ce qu'on peut permettre ou même de ce qu'on ne veut permettre. Donc il y a cette tension dans la figure, la représentation de Winthrop et son rôle dans l'historiographie américaine entre un pouvoir fort mais uniquement symbolique et un pouvoir politique faible, inexistant, dépassé, inadéquat. que je vous écris là, c'est une dynamique exceptionnaliste, hein, l'histoire américaine dans sa dimension exceptionnaliste, c'est-à-dire qui inscrit les origines américaines dans la foi, le biblicisme, le sacrifice collectif au nom de la providence, mais qui relègue la gouvernance effective du settlement à une dimension négligeable de l'histoire des colonies. Négligeable et négligée, parce que il n'y a pas eu jusqu'à présent d'histoire de l'expansion à l'échelle régionale en Nouvelle-Angleterre. Cependant, il suffit d'étudier en série une série de textes promotionnels européens, pas seulement anglais, mais également espagnols, français, néerlandais, de l'époque moderne, pour comprendre que l'exceptionnalisme religieux, c'est tout simplement l'argument principal de la colonisation. Que la nation soit catholique ou qu'elle soit protestante, chacun détient la vraie religion et détient ainsi le pouvoir, enfin l'aptitude à convertir le plus grand nombre. Donc l'exceptionnalisme religieux, c'est beaucoup plus large que la réforme anglaise. Alors si vous, cette question de la vraie religion à travers la promotion coloniale vous intéresse, je vous recommande les ouvrages de Canizares Esguerra sur ce sujet, qui démontre très clairement que la vraie religion était un argument central de l'expansionnisme catholique et protestant dans les Amériques. En Angleterre, depuis la période élisabéthaine, et là je pense principalement au discours sur l'expansion vers l'ouest de Richard Hakluyt, de Western Planting, Discourse on Western Planting, les Anglais avaient rajouté à l'argument d'évangélisation un argument pragmatique qui faisait de la religion une solution politique et sociale à la précarité du compromis élisabétain. On a des pasteurs et des paroissiens dissidents, bah, on peut toujours s'en servir pour les envoyer dans les Indes ou dans les Amériques. Donc l'argument est aussi présent, la religion a un rôle social politique à jouer pour la nation. Ainsi, les sources de la Massachusetts Bay Company qui recrute Winthrop à l'été 1629 sont-elles imprégnées de ces savoirs, de ces représentations des espaces coloniaux appropriables, de leurs habitants, du rôle de l'évangélisation? Et je vous ai reproduit ici le sceau de la Massachusetts Bay Company avec l'Indien debout, flèche pointant vers le sol, qui implore le colon de venir le sauver. Donc, en ce sens, la compagnie de la baie du Massachusetts n'est pas différente des autres compagnies commerciales anglaises de la même époque. Quand on regarde de plus près l'historiographie américaine, on s'aperçoit que l'idée de mission puritaine est liée à un petit moment de l'historiographie qui considère qu'en 1629, la Massachusetts Bay Company était moribonde, et une poignée de puritains se sont emparés de cette structure pour organiser la migration massive de leurs dissidents puritains en Amérique. À ma lecture chronologique des minutes de la corporation et les tentatives pour reconstruire les réseaux derrière cette compagnie qui était petite, c'est vrai, assez fragile, mais elles étaient toutes considérablement endettées de toute façon, donc l'endettement n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Elle a organisé la migration religieuse. J'étais en train de dire que la Massachusetts Bay Company, donc quand on a beaucoup à dire, on fait des choix, même au dernier moment, et en fait c'est une très mauvaise idée pour rester sur ce qu'on a écrit, pour ne pas dévier. Mais en ce sens, donc la Massachusetts Bay Company n'a pas été taken over par des puritains, mais elle est dans une continuité d'une tradition discursive, idéologique, sur le rôle de la religion. Maintenant, les historiens, quand vous regardez les histoires de Nouvelle-Angleterre, vous constaterez, un petit après-midi en bibliothèque, bon, vous avez autre chose à faire, j'en suis sûre, mais vous constaterez que la plupart des histoires de Nouvelle-Angleterre commencent sur le bateau. Typiquement, on est sur le bateau et on émigre. Tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le contexte institutionnel qui crée la corporation, qui organise le recrutement, les réseaux financiers, etc., ont été étudiés dans les années 1930, et puis après Miller, plus rien. Donc, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je suis partie des sources politiques, c'est-à-dire de la compagnie elle-même, J'ai avancé chronologiquement depuis ce contexte de l'investissement colonial anglais en Nouvelle-Angleterre. J'ai pu constater que la religion servait un projet colonial extrêmement réfléchi, extrêmement bien pensé, qui en fait avait émergé des échecs précédents, y compris en Virginie, où les colonies disparues, ou même la colonisation française, ou la légende noire de la colonisation espagnole. Les actionnaires de la compagnie et leurs promoteurs, parce qu'il faut bien comprendre que toutes les compagnies coloniales fonctionnent avec une série d'auteurs qui écrivent en leur nom propre, mais en se revendiquant de cette compagnie pour stimuler le public, lever des fonds, obtenir le soutien d'un courtier particulièrement puissant, etc. Il y a beaucoup de littérature autour de ces événements et qui est souvent très très fascinante et très intéressante à lire. Donc ça a été le contexte à partir duquel je suis partie, et j'ai pu constater chez ces actionnaires, leurs promoteurs, et dans les correspondances des colons en partance, l'idée que la religion était au service du peuplement. La Massachusetts Bay Company avait une structure mercantile d'actionnariat, mais n'avait pour capital que la terre qu'elle allait s'approprier. Il fallait donc, pour exister, pour survivre et puis pour devenir rentable, que cette terre soit transformée. L'argument du travail, comment bien travailler la terre, quelle proportion doit-il y avoir entre colons et indigènes, entre hommes et femmes, entre travailleurs serviles et travailleurs libres, toutes ces questions sont discutées dans les réseaux autour de Winford. Et on conclut, on arrive à promouvoir l'idée selon laquelle la famille est la première institution du peuplement réussi. On met donc au centre de la société coloniale un père de famille, householder, qui est actionnaire, parce qu'en entrant dans la corporation, il reçoit des terres, mais il reçoit aussi des privilèges civiques et religieux. Il a ainsi accès à la propriété individuelle à perpétuité, à une autonomie religieuse certaine pour pratiquer la foi qui le définit, mais aussi une responsabilité considérable dans le contrôle social des plus jeunes, tous ses dépendants, hein, son épouse, ses enfants, mais aussi les engagés qui vivent sous son toit. Donc le père de famille a une responsabilité, c'est lui l'individu qui est au centre de cette corporation, et comme Trickle Down, hein, où il est au sommet d'une pyramide qui à terme doit inclure toute la population, et il est de la responsabilité de ce householder d'éduquer ses dépendants. Il doit les éduquer à l'acceptation de l'autorité des supérieurs. Le travail, l'éducation religieuse, mais aussi civile et professionnelle. Et bien, le but ultime étant, à l'âge adulte, ou plutôt si l'enfant est doué, mais en général à l'âge adulte, l'entrée dans la congrégation pleine et entière du dépendant dans la congrégation. Ces householders, alors il faut imaginer la Nouvelle-Angleterre quand même, c'est quand même 6 mois d'hiver. C'est un travail, alors le travail est obligatoire tous les jours, sauf du samedi midi jusqu'au lundi matin, des périodes de la semaine qui sont entièrement dédiées à l'exercice religieux, par décret, hein, on est dans les toutes premières années. Donc, l'Église est le lieu de la socialité. Tu disais tout à l'heure, en Nouvelle-Angleterre, il est certain que distinguer pouvoir politique et pouvoir religieux, quand les discussions de gouvernance locale sont faites entre les moments du culte ou après ou autour d'événements de socialité, c'est presque impossible à l'échelle locale. Donc la religion est très présente, évidemment, structure l'organisation sociale et laborieuse de la colonie de Nouvelle-Angleterre, et est aussi un lieu de solidarité et d'entraide. La charité pour laquelle Winthrop est le mieux connu était constamment invoquée pour justifier les décisions des autorités locales et régionales, et bien sûr sommer la communauté religieuse à obéir à ses propres injonctions. Maintenant, quand on lit la correspondance de Winthrop ou les minutes de la compagnie, on s'aperçoit que la religion était, en de nombreux points, limitée. Les pasteurs n'ont pas l'autorisation, ni même ne sont pas invités à suivre jusqu'au bout leur passion pour l'innovation religieuse. Au contraire, il est plus, du point de vue de Winthrop, la religion, c'est un problème, politiquement parlant. D'accord ? Et à chaque fois, vous pouvez lire les conflits religieux en Nouvelle-Angleterre sous le prisme des enjeux coloniaux plus larges auxquels il faut référence. Je vous donne juste deux exemples, parce que sinon on pourrait parler deux heures. Le premier exemple, c'est Roger Williams. Roger Williams, on peut dire que dans l'historiographie, Winthrop et Williams sont deux antithèses. L'un est vraiment passéiste, manque de vision, il est intolérant, odieux, malhonnête. Non, mais c'est Winthrop, c'est souvent ça, tout de même. Pas dans ses textes, hein, mais dans la représentation qui existe de lui. Et Roger Williams, au contraire, c'est la modernité, la tolérance, etc. Bon, il n'y a pas meilleurs associés dans la colonisation que Winthrop et Williams. Il y a plus d'une cinquantaine d'échanges épistolaires entre les deux. Ils travaillent ensemble et ils se donnent des conseils. Quand vous regardez l'histoire de la Nouvelle-Angleterre du point de vue purement pratique de l'expansion, déboisement, installation, infrastructure, déplacement des populations, etc., gestion de la population servile, ils sont absolument d'accord. Donc, il faut repenser la manière dont on a conçu le pouvoir dans la colonie jusqu'à présent. Parce que ça ne compte pas. Autre exemple, la crise antinomienne. Qui oppose donc John Wheelwright et Anne Hutchinson dans l'église de Boston au pasteur John Wilson. Moment de tourment, de fragilité, de contestation, le pouvoir colonial est au plus bas, sauf que dans le même temps, il conduit une guerre d'expansion en territoire Pequot, Nantic, Mohegan, très loin vers l'est, jusque dans le Connecticut. De 18 mois d'attaque indienne, d'expédition financée, organisée et dirigée par Winthrop et Williams, qui ensemble organisent l'expansion vers l'ouest, sans laquelle on ne peut pas rendre viable, on ne peut pas occuper de manière durable, le territoire qui est octroyé à la compagnie par la charte. Parce que ce territoire va très loin vers l'est. Donc, on voit qu'on peut lire l'histoire de la Nouvelle-Angleterre sous l'angle politique et non pas exclusivement sous l'angle religieux, mais la religion, alors comment la penser ? Alors, moi qui fréquente Winthrop de manière assez assidue et assez intime depuis 15 ans, oui, mais il y a de quoi faire, c'est chouette, hein, on ne peut pas travailler 15 ans sur... Mais sur 3 mètres, on peut, je crois. En termes d'archives, il y a quand même y a beaucoup, beaucoup de choses, et ça va dans plein de directions qui ne sont pas encore toutes explorées, donc c'est fascinant. Si je devais résumer son parcours, la question c'est pourquoi il est parti ? Alors, s'il n'a pas eu cette vision d'amener la réforme plus à l'ouest, pourquoi est-il parti ? Quand on regarde les archives de sa famille, on constate que la famille n'était pas particulièrement religieuse, mais qu'elle était dans l'East Anglia, où il y avait énormément de non-conformistes qui résidaient, et que Winthrop a commencé très très jeune à écrire, à coucher sur le papier ses rencontres, ses aperçus, sa relation avec Dieu. Il a énormément écrit sur son propre parcours religieux et à toutes les étapes de sa conversion. Au début, il est très jeune, il n'est pas converti, il aspire à la rectitude. Dans son mariage, puis le décès de sa seconde femme, encore une fois, la rectitude. La rectitude est le statut social. C'est un homme ambitieux, qui a des aspirations professionnelles très fortes, qui voyage, qui travaille la moitié du temps à Londres, dans les cercles du Parlement, mais il n'aspire jamais à dépasser la limite sociale qui lui est imposée par son statut. Non seulement il est de très petite noblesse, mais le titre n'a que deux générations. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement frustré socialement. Par l'ambition, il a l'impression qu'il est endowed, hein, littéralement, par son créateur, de talents scripturaires, juridiques, très forts, et que ces talents-là, il ne peut les assouvir en Angleterre. Et quand on lui propose de gouverner cette compagnie coloniale, il y voit à ce moment le moyen de devenir competent. Le mot anglais, c'est competent. C'est une forme d'autonomie. Ce n'est pas la liberté naturelle du siècle qui suivra, mais une autonomie. Les moyens de vivre librement de son travail. Et la colonisation, pour lui, devient cette opportunité. Enfin, au fil de sa vie et de ses écrits, il n'a pas changé de caractère et ni de détermination à inscrire sa vocation personnelle dans la gouvernance. Dans la campagne anglaise, il est Lord of the Manor, mais il est aussi très vite Burgess, donc il est magistrat à l'échelle de son comté. Il est avocat, et il va travailler à la Court of Wards and Liveries, qui va être abolie dès la Restauration, mais qui est assez importante dans la crise entre le roi et le Parlement en 1628 et 1629. Donc il est très au cœur de conflits politiques, mais ce à quoi il aspire, lui, c'est gouverner de manière juste et honnête, c'est-à-dire réaliser une vocation qu'il s'est appropriée très jeune. Moi, je trouve que son legs le plus important à l'histoire américaine, c'est cette conscience de soi. Encore une fois, on ne veut pas dire liberté. Tocqueville a dit c'est la liberté. Mais Tocqueville a dit c'est la liberté dans l'union. Quand Tocqueville a cité Winthrop, il a cité Winthrop debout en train de faire son little speech on government de 1644. Et Winthrop enjoignait les colons à chérir la liberté qu'il s'était octroyée en partant et en s'appropriant la terre. Donc Tocqueville avait très bien senti. Il est revenu immédiatement sur l'idée de puritanisme et donc de religion. De mon point de vue, il y a quelque chose... Alors j'ai envie de dire moderne, hein, c'est quand même le sujet... j'ai un petit peu envie de dire moderne. Une conscience historique très forte d'être dans un moment de l'histoire de l'Occident qui change parce qu'il y a la colonisation. Et donc l'histoire ne sera plus la même après. Et c'est pour ça qu'il écrit aussi, qu'il écrit ce journal. C'est parce qu'il a cette conscience historique. Donc, de mon point de vue, c'est de la religion vécue. Alors, c'est le microcosme là, c'est l'individu. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est réplicable à l'échelle, à quelle échelle on peut. Mais au cours du XVIIe, puis du XVIIIe, même du XIXe, cette idée d'autonomie, d'appropriation de soi par l'expérience de colonisation revient. Elle revient suffisamment fréquemment pour que Winthrop continue d'être un objet intéressant. Alors bien sûr, cette notion de liberté et d'union dans commun des settlers, je pense qu'il ressort. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure, ça revient régulièrement. Je pense à Bancroft, mais je pense aussi à Turner et la frontière du Massachusetts. Des historiens proprement de Nouvelle-Angleterre qui vont vraiment s'approprier cette expérience de colonisation pour en faire un trait attenant à leur liberté. Bien sûr, Winthrop, pourquoi on ne le lit pas? Parce qu'il est presque impossible à lire. Parce qu'on ne peut pas passer... Il y a le piédestal sur lequel il est érigé, debout depuis si longtemps, mais quand on lit son texte, on lit la réalité de la colonisation. On lit la dépossession indienne, la guerre indienne, une violence inouïe dans le texte, dans les lois, enfin les punitions, vous savez, c'est pas clair. Quand les condamnations à mort, moi j'ai essayé cet exercice, qu'un auteur dise « un tel a été condamné à mort », etc. Retrouver un texte, non seulement qui contient l'arrêté, mais en plus retrouver dans les sources mention de l'exécution, c'est très difficile. Donc en fait, à plusieurs moments, moi je me dis régulièrement, mais qu'est-il arrivé à cette personne? Alors il faudrait bien sûr suivre, mais les exécutions ne sont pas publiques, enfin elles sont publiques, mais elles ne sont pas promues de la même manière que les autres avancées du monde polyadaptif.
C'est passionnant, mais il faudrait que...
Oui, j'arrête. donc, c'est intéressant. Ce sont des questions politiques, je pense, très actuelles sur le rôle de la religion dans la colonisation. Et je vous invite vraiment... Bon, tout le monde, les bibliothèques n'ont pas l'édition du journal, mais même les éditions très anciennes du 19e, qui sont souvent dans les bibliothèques, suffisent pour vous faire voir cette double face du puritanisme de Nouvelle-Angleterre. Merci.
Merci.
C'est bien, Agnès.